Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal du docteur Seward. Suite. 30 octobre, 7h du matin. Nous approchons à présent de Galatz, et plus tard, je manquerai peut-être de temps pour écrire. Nous avons tous guetté ce matin l'arrivée de l'aube. Sachant qu'il lui est chaque jour plus difficile d'obtenir l'hypnose, Van Helsing commença ses passes plus tôt que d'habitude, sans résultat toutefois, jusqu'au moment où elle céda avec une peine croissante, une minute avant l'apparition du soleil. Sans perdre de temps, le professeur lui posa des questions auxquelles elle répondit avec une égale promptitude. « Tout est noir. J'entends le remous de l'eau au niveau de mon oreille et du bois qui craque sur du bois. Plus bas, du bétail, loin. Il y a aussi un autre bruit bizarre. On dirait... » Elle s'interrompit, très pâle et pâlissant de plus en plus. « La suite, parlez, je vous l'ordonne !» s'écria Van Helsing d'une voix déchirante. Et son regard était désespéré, car le soleil levant teintait de rouge jusqu'au pâle visage de Madame Harker. Elle ouvrit les yeux, et nous tressaillîmes quand elle dit, doucement et d'un air extrêmement inquiet, « Professeur, pourquoi demander de moi ce que vous savez m'être impossible? Je ne me rappelle rien. » Puis, voyant l'étonnement sur nos visages, elle reprit. Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Je ne sais rien, sinon que j'étais couché là, à demi endormi, et que je vous entendais dire « La suite, parlez, je vous l'ordonne ». C'était si étrange de vous entendre me commander comme si j'étais un enfant coupable. « Mais, Madame Mina, » répondit-il tristement, « c'est une preuve, si tant est qu'il en faille une, de l'amitié et du respect que j'ai pour vous. En effet, un mot dit pour votre bien, prononcé le plus sérieusement que jamais, paraîtra nécessairement étrange, du seul fait qu'il exprime un ordre adressé à celle à qui je suis si fier d'obéir. Coup de sifflet, nous approchons de Galatz. Nous sommes sur des braises à force d'anxiété et d'impatience. Journal de Mina Harker, 30 octobre. Monsieur Maurice m'a emmené à l'hôtel où nos chambres avaient été retenues par un télégramme. Il est celui dont on peut le mieux se passer, étant donné qu'il ne parle aucune langue étrangère. Les forces furent distribuées comme à Varna, à ceci près que ce fut Lord Godalming qui se rendit chez le vice-consul, son rang pouvant servir de garantie auprès d'un personnage officiel, dans l'extrême urgence où nous sommes. Jonathan et les deux médecins s'en furent à l'agence maritime pour avoir quelques nouvelles au sujet du tsarine Catherine. Plus tard. Lord Godalming est de retour. Le consul est absent, le vice-consul est malade. Les affaires courantes sont expédiées par un employé qui s'est montré très bien disposé, offrant de faire tout ce qui est en son pouvoir. Thank you. Journal de Jonathan Harker, 30 octobre. À 9h, le docteur Van Helsing, le docteur Seward et moi-même sommes allés chez Mackenzie et Stenkoff, agents de la firme Hapgood de Londres. En réponse à une demande de Lord Godalming, ils avaient reçu un télégramme de Londres les invitant à nous témoigner toute la déférence possible. Ils furent plus que courtois, plus qu'obligeants, et nous emmenèrent séance tenante à bord du Tsarine Catherine, qui était à l'ancre dans le port fluvial. Nous vîmes le capitaine, un nommé Donaldson, qui nous raconta son voyage. Il nous dit que de toute sa vie, il n'avait eu meilleure traversée. « Voilà, dit-il, ça nous a même effrayés, car nous nous attendions à devoir payer ça par un sale coup de malchance, afin de revenir à une juste moyenne. Ce n'est pas prudent de naviguer de Londres à la mer Noire avec le vent en poupe, comme si le diable en personne vous soufflait dans les voiles pour ses fins personnelles. Et avec ça, pas moyen de voir rien du tout. Chaque fois que nous approchions d'un navire, ou d'un port, ou d'un cap, un brouillard nous tombait dessus et voyageait avec nous, et quand il se levait et que nous pouvions découvrir le pays, il n'y avait plus qu'un damné vide. Nous avons passé Gibraltar sans pouvoir nous signaler. Et quand nous sommes arrivés aux Dardanelles, où nous devions attendre une autorisation de passer, nous n'avons jamais été à portée d'être arrêtés. J'ai d'abord pensé à diminuer la pression et à louvoyer jusqu'à ce que le brouillard ait disparu. Mais après tout, j'ai réfléchi que si le diable s'était mis en tête de nous amener en mer Noire dans un temps record, il le ferait, que nous le voulions ou non. Une traversée rapide, ce n'était pas pour nous desservir auprès de la compagnie, et ni pour gêner nos affaires. Et le vieux Satan, qui aurait accompli ses fins personnelles, nous saurait gré de ne pas l'avoir contrecarré. Ce mélange de bonhomie et de roublardise, de superstition et d'astuce commerciale, excita Van Helsing, qui dit « Mon ami, le diable est plus malin que certains ne le pensent, et il sait à qui il parle. » Le compliment ne déplut pas à l'autre qui poursuivit. Après le Bosphore, les hommes ont commencé à ronchonner. Les Roumains vinrent me trouver pour me demander d'envoyer par-dessus bord une grande caisse qui avait été chargée par un drôle de vieil homme, juste au moment où nous quittions Londres. Je les avais vus reluquer le gars et lever deux doigts à son approche, pour se garder du mauvais œil. Les superstitions des étrangers, ce qu'elles peuvent être ridicules. Je les ai renvoyés à leur boulot en deux temps, trois mouvements. Mais, tout juste après, un coup de brouillard nous tombe dessus, et je me demande s'il n'y avait pas quelque chose de vrai dans ce qu'ils disaient, quoique je n'ai rien contre la grande caisse. Bon, on avance, et comme le brouillard ne cesse pas de 5 jours, je laisse le vent nous porter, car si le diable voulait arriver quelque part, eh bien, il n'y avait qu'à le laisser faire. Et s'il ne le voulait pas, de toute façon, nous garderions un œil attentif. Eh bien, nous avons eu bonne route, et eau profonde tout le temps. Et avant-hier, quand le soleil levant a percé le brouillard, nous nous sommes retrouvés sur le fleuve, juste en face de Galatz. Les Roumains étaient furieux et voulaient ni cric ni crasque que je lance la caisse dans l'eau. J'ai dû discuter avec eux à coups d'inspect, et quand le dernier a débarrassé le plancher en se tenant la tête à deux mains, je les avais persuadés que, mauvais œil ou pas mauvais œil, les biens et la confiance de mes employeurs étaient mieux à leur place dans mes mains qu'au fond du Danube. Remarquez qu'ils avaient amené la caisse sur le pont, tout prêt à l'expédier, et qu'elle portait l'indication « Galatz par Varna ». Je voulais la laisser là juste après le déchargement dans le port pour m'en débarrasser tout d'un coup. Nous n'avons pas beaucoup déblayé ce jour-là et nous avons dû rester toute une nuit à l'ancre. Mais au petit matin, 1 heure avant le lever du soleil, un homme est venu à bord avec une procuration envoyée d'Angleterre pour recevoir une caisse adressée au comte Dracula. Sûr que l'affaire le concernait, ses papiers étaient en règle, j'étais content de me débarrasser de cette dernière chose car je commençais moi-même à ne plus me sentir tranquille. Si le diable a embarqué du bagage dans mon bateau, c'est ça et rien d'autre. « Comment s'appelle celui qui en a pris livraison ?» demanda Van Helsing, dominant son impatience. « Je vous le dis tout de suite. » Et, descendant dans sa cabine, il en ramena un reçu signé « Emmanuel Hildesheim, Burgenstrasse 16 ». Nous ne pûmes rien tirer de plus du capitaine, et nous le quittâmes en le remerciant. Nous avons trouvé Hildesheim à son bureau, un juif avec une trogne de mouton et un fesse. Son exposé fut ponctué d'espèces trébuchantes, ses virgules étant apportées par nous, et avec quelques profits pour lui, il nous dit ce qu'il savait et qui se révéla peu compliqué, mais capital. Il avait reçu une lettre de M. Deville, de Londres, le priant de prendre réception, si possible avant le lever du soleil, afin d'éviter la douane, d'une caisse qui arriverait à Galate sur le Tsarine Catherine. Il devait la donner en charge à un certain Petrov Skinski, qui était en relation avec des Slovaques, lesquels trafiquaient sur le fleuve et jusqu'au port. Il avait reçu pour sa peine un billet anglais dont la Banque internationale du Danube lui avait donné aussitôt la contre-valeur en or. Il avait conduit Skinski au bateau et lui avait remis la caisse afin d'éviter des frais de factage. Il n'en savait pas plus. Nous voilà en quête de Skinski, mais sans parvenir à le trouver. Un de ses voisins, qui ne semble pas le porter dans son cœur, déclare qu'il est parti avant-hier, mais on ne sait où. Nouvelle confirmée par son logeur, à qui un messager a remis la clé de la maison et le prix du loyer en monnaie anglaise. Cela s'est passé entre 10 et 11 heures, la nuit dernière. Nous nous retrouvons au point mort. Tandis que nous bavardons, arrive en courant hors d'haleine quelqu'un qui crie que le corps de Skinski a été découvert à l'intérieur du cimetière de Saint-Pierre, la gorge ouverte comme par un animal sauvage. Nos interlocuteurs s'élancent pour aller voir ce spectacle d'horreur, tandis que les femmes s'écrient « C'est un Slovaque qui a fait ça !» Nous nous dérobons de peur d'être impliqués dans l'affaire et retardés. De retour à l'hôtel, nous étions incapables d'arriver à aucune conclusion précise. Nous sommes tous convaincus que le coffre poursuit son chemin, par où, mais vers où? C'est ce qu'il nous reste à découvrir. C'est le cœur lourd que nous avons retrouvé Mina. Une fois réunis, nous nous sommes demandé s'il fallait lui communiquer les dernières nouvelles. Comme tout semble désespéré, c'est notre dernière chance, si précaire qu'elle soit. Journal de Mina Harker, 30 octobre au soir. Ils étaient si fatigués, si recrus, si découragés, qu'il n'y avait rien à faire avant qu'ils n'eussent pris un peu de repos. Je les ai donc priés d'aller s'étendre une demi-heure en me laissant consigner tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Quelle reconnaissance j'éprouve envers l'homme qui a inventé la machine à écrire transportable et envers M. Maurice qui m'a procuré celle-ci. J'aurais perdu le fil de mes idées si j'avais dû me servir d'une plume. Tout est fini. Pauvre cher, très cher Jonathan, que n'a-t-il pas souffert? Que ne doit-il souffrir à présent? Il est couché sur le sofa, respirant à peine, son corps est comme paralysé, ses sourcils sont froncés, son visage est contracté par la souffrance. Pauvre chéri, il réfléchit peut-être. Sa figure m'apparaît toute ridée par son effort de concentration. Que je voudrais pouvoir lui être de quelque secours, je ferai ce que je pourrai. À ma demande, le docteur Van Helsing m'a remis toutes les notes dont je n'avais pas encore pris connaissance. Pendant qu'il se repose, je veux les lire attentivement et peut-être arriver ici à quelques conclusions. J'essaierai de suivre l'exemple du professeur et de réfléchir sur les faits qui sont devant moi, sans aucun préjugé. Je crois, avec l'aide de Dieu, avoir fait une découverte. Il me faut des cartes que j'examinerai soigneusement. Oui, je suis de plus en plus sûre que je ne me trompe pas. Ma nouvelle solution est prête. Je vais réunir mes amis et la leur dire. Ils en jugeront. Soyons précis. Chaque minute est précieuse. Thank you. aide-mémoire de Mina Harker insérée dans son journal. Point de départ pour l'enquête. Le problème pour le comte Dracula est de revenir chez lui. Petit A. Il doit y être transporté par quelqu'un. Cela est évident, car s'il avait le pouvoir de se déplacer à son gré, il pourrait le faire sous la forme d'un homme, ou d'un loup, ou d'une chauve-souris, ou autrement. Il redoute évidemment d'être découvert ou gêné dans l'état vulnérable où il se trouve, enfermé dans son coffre entre le lever et le coucher du soleil. Petit B. Comment peut-il être transporté? Procédons par élimination successive. 1. Par la route. Cela comporte d'infinies difficultés, surtout pour sortir des villes. Petit A, il y a les gens sont curieux et cherchent à savoir. Un signe, un soupçon, un doute concernant le contenu du coffre, et le voilà perdu. Petit B, il y a ou il peut y avoir des employés de la douane et de l'octroi à affronter. Petit C, ses poursuivants peuvent être sur ses traces, c'est là sa crainte majeure. Et c'est pour éviter de se trahir qu'il a écarté, dans la mesure où il a pu, même sa victime, moi. 2. Par chemin de fer. Là, personne pour veiller sur le coffre qui risque d'être retardé. Et tout retard serait fatal avec des ennemis sur ses traces. Assurément, il pourrait échapper pendant la nuit. Mais que deviendrait-il s'il était laissé dans un endroit inconnu, sans refuge où il puisse se dérober? Telle n'est pas son intention. Et ce n'est pas non plus un risque qu'il puisse accepter de courir. 3. Par eau. C'est le moyen le plus sûr, sous un rapport, et le plus dangereux sous un autre. Sur l'eau, il est sans pouvoir, excepté pendant la nuit. Et même alors, il ne peut faire surgir que du brouillard, des tempêtes, de la neige et ses loups. Et s'il y avait un naufrage, les eaux vivantes l'engloutiraient sans qu'il puisse rien faire, et il serait perdu. Il pourrait amener le vaisseau sur la côte, mais si le pays lui était hostile et qu'il ne fût pas libre de s'y mouvoir, sa position encore une fois serait désespérée. S'il est sur un bateau, il nous faut à présent déterminer sur quelle eau ce bateau navigue. Notre premier objectif doit être de préciser ce qu'il a fait jusqu'à présent. Cela nous éclairera sur ce qui lui reste à faire. D'abord, considérons ses actes à Londres comme une partie de son plan d'ensemble, quand chaque minute comptait pour lui et qu'il devait tirer parti de tout. Ensuite, des faits que nous connaissons, essayons de déduire ce qu'il a fait ici. Pour commencer, il a évidemment voulu arriver à Galatz. L'ordre concernant Varna était pour nous dérouter si nous approchions. L'ordre concernant Varna était pour nous dérouter si nous apprenions qu'il avait quitté l'Angleterre et cherchions à savoir pour quelle destination. Son but unique, immédiat, était de nous échapper. La preuve en est l'instruction incluse dans la lettre à Emmanuel Hildesheim de dégager la caisse et de l'enlever avant le lever du soleil, et aussi l'ordre donné à Petrov Skinsky. Là, nous ne pouvons que deviner. Une lettre ou un message doit avoir existé, puisque Skinsky est allé de lui-même trouver Hildesheim. Jusque-là, ses plans ont réussi, nous le savons. Le tsarine Catherine a fait un voyage prodigieusement rapide, à tel point que le capitaine Donelson en a conçu des soupçons. Mais sa superstition jointe à sa roublardise ont fait le jeu du comte. Il a couru, vent en poupe, à travers le brouillard et le reste, et il est arrivé à l'aveuglette à Galatz. Les dispositions du comte se sont prouvées efficaces. Hildesheim dégagea le coffre, l'emporta et le transmit à Skinsky. Skinsky s'en chargea, et nous perdons ici la piste. S'il y avait une douane ou un octroi, on les a évités. Maintenant, demandons-nous ce que le comte a fait après son arrivée à terre, à Galatz. La caisse a été remise à Skinsky avant l'aube. Au lever du soleil, le comte pouvait apparaître sous sa forme véritable. Demandons-nous pourquoi Skinsky fut choisi comme auxiliaire. D'après le journal de mon mari, Skinsky est en relation avec les Slovaques qui trafiquent sur le fleuve en amont du port. Et la remarque que le meurtre est l'œuvre d'un Slovaque prouve ce que l'on pense généralement de ces gens. Le comte voulait qu'on ne l'approche à point. Voici ma conjecture. Le comte décida, à Londres, de rentrer dans son château par eau, cette voie étant la plus sûre et la plus secrète. Les Tziganes l'en avaient fait sortir et l'avaient probablement donné en charge à des Slovaques qui avaient amené les caisses à Varna, d'où elles avaient été embarquées pour Londres. Le comte connaissait ainsi des personnes capables de lui organiser ce service. Lorsque le coffre fut à terre, il en sortit avant le lever ou après le coucher du soleil et donna ses instructions à Skinsky pour que le chargement fût assuré d'une rivière à l'autre. Cela fait, et sûr que tout allait bien, il crut effacer ses traces en assassinant son agent. Après avoir examiné la carte, je conclus que la rivière la plus commode à remonter pour les Slovaques est ou bien le Prut, ou bien le Serret. Je vois dans les notes qu'au cours de ma transe, j'ai entendu des vaches meugler, de l'eau tourbillonner au niveau de mes oreilles et du bois craquer. Le comte, dans son coffre, était alors sur une rivière dans une barque non pontée, propulsée probablement à la rame ou à la perche, car il y a des hauts fonds et il faut aller contre le courant. Le bruit serait différent si on le descendait. Naturellement, ce n'est peut-être ni le Serret ni le Prut, mais nous pouvons arriver à le savoir. De ces deux rivières, toutefois, c'est sur le Prut que la navigation est la plus aisée. Mais le Serret, à Fundu, reçoit la Bistrica, qui coule autour du col de Borgo. La boucle qu'elle y fait est le point le plus rapproché du château de Dracula que l'on puisse atteindre par eau. Journal de Mina Harker. Suite. Quand j'eus fini de lire, Jonathan me prit dans ses bras et m'embrassa. Les autres me serrèrent les mains et le docteur Van Helsing déclara. Une fois de plus, notre chère Madame Mina s'avère notre guide. Ses yeux ont vu quand les nôtres étaient aveugles. Nous avons retrouvé la piste et si nous parvenons à rejoindre notre ennemi en plein jour, sur l'eau, notre tâche est accomplie. Oui, il a une avance sur nous, mais il lui est impossible de se hâter. Comment oserait-il quitter son cercueil? Ceux qui le convoient auraient des soupçons, et au premier soupçon, on le jetterait dans la rivière où il périrait. Il le sait et n'osera pas. Et maintenant, tenons notre conseil de guerre, car il nous faut sur le champ savoir ce que chacun de nous devra faire. Je vais me procurer une vedette et me mettre à ses trousses, dit Lord Godalming. Et moi, des chevaux pour le suivre sur la rive, s'il venait à accoster, annonça M. Morris. Bien, reprit le professeur. Vous avez tous deux raison, mais aucun de vous ne peut partir seul. Il vous faut la force si on vous oppose la force. Le Slovaque est robuste et agressif, et il a de bonnes armes. Tous les hommes sourirent, car ils transportaient un petit arsenal. J'ai apporté quelques Winchester, dit M. Morris. Ce sont des armes commodes en cas d'attaque en masse, et il y aura peut-être des loups. Vous vous souvenez que le comte a pris certaines précautions. Il a formulé des exigences que Mme Harker n'a pu entendre ou comprendre complètement. Nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Je pense, intervint le docteur Seward, que je ferais mieux d'accompagner Quincy. Nous sommes habitués à chasser ensemble, et à deux, bien armés, nous aurons raison de toute attaque. Et il ne faut pas non plus que vous soyez seul, Hart. Il faudra peut-être combattre les Slovaques, et un mauvais coup, je n'imagine pas que ces gaillards aient des fusils, détruiraient tous nos plans. Nous ne devons cette fois rien laisser au hasard, et nous devrons nous arrêter que lorsque la tête du comte aura été séparée de son corps et que nous serons sûrs qu'il n'y a plus de réincarnation possible pour lui. Il regardait Jonathan en parlant ainsi, et Jonathan me regardait, et je me rendis compte que mon pauvre chéri était tourmenté. Bien sûr, il souhaitait rester auprès de moi, mais ceux qui seraient à bord de la vedette auraient toute chance de détruire le vampire. Pourquoi ai-je hésité à écrire le mot ? Il se tut un moment, et pendant ce silence, le docteur Van Helsing parla. Mon cher Jonathan, ceci, pour deux raisons, est votre lot. D'abord, vous êtes jeune et brave, et capable de vous battre. Et toutes nos énergies. D'abord, vous êtes jeune et brave, et capable de vous battre. Et toutes nos énergies sont nécessaires pour le coup final. De plus, c'est à vous qu'il appartient de détruire celui, cette chose qui vous a tant fait souffrir, vous et les vôtres. En ce qui concerne Madame Mina, n'ayez rien à craindre. Je prendrai soin d'elle autant que je le pourrai. Je suis vieux, Mes jambes ne sont plus aussi rapides qu'autrefois. Je ne suis pas habituée à de longues chevauchées, ni à me battre à main armée. Mais je suis capable de mourir, s'il le faut, aussi bien qu'un jeune homme. Que je vous dise maintenant ce que je souhaite. Vous, Lord Godalming et l'ami Jonathan, vous remonterez la rivière sur votre vedette rapide, tandis que John et Quincy surveilleront la rive en cas de débarquement. Moi, pendant ce temps, j'emmènerai Madame Mina au cœur même du pays ennemi. Pendant que le vieux renard est lié dans sa caisse, flottant au gré du courant d'où il ne peut atteindre la terre, où il n'ose pas soulever le couvercle de son cercueil de peur que ses convoyeurs slovaques, dans leur épouvante, ne le fassent périr, nous allons suivre la route que suivit Jonathan, de Bistritz jusqu'à Borgo, et trouver notre chemin jusqu'au château de Dracula. Le pouvoir hypnotique de Madame Mina nous viendra sûrement en aide, et nous trouverons notre chemin, qui autrement nous resterait obscur, inconnu, après le premier lever du soleil qui suivra notre arrivée à cet endroit fatal. Il y a gros à faire, et d'autres lieux à purifier, afin que ce nid de vipère soit effacé du monde. Jonathan l'interrompit fiévreusement. « Quoi, professeur Van Helsing? Auriez-vous l'intention d'amener Mina, dans son triste état et touchée comme elle l'est par cette maladie du diable, jusqu'à la gueule de ce piège de la mort? Pour rien au monde, ni pour le ciel, ni pour l'enfer !» Il resta un instant sans voix. Puis il reprit. « Savez-vous ce que c'est que cet endroit? Avez-vous vu ce repère d'infernale horreur, où même le clair de lune est peuplé de formes effrayantes? Où chaque grain de poussière qui tourbillonne dans le vent est l'embryon d'un monstre dévorant? Avez-vous senti les lèvres du vampire sur votre gorge ?» Il se détourna vers moi, et comme son regard tombait sur mon front, il leva les bras au ciel avec un cri. « Ah, mon Dieu, qu'avons-nous fait pour être accablés par cette épouvante ?» Et il se laissa tomber sur le sofa, ne pouvant supporter sa souffrance davantage. La voix du professeur nous calma. Elle était douce, claire, vibrante. « Mais, mon ami, si je souhaite me rendre à cet affreux endroit, c'est justement pour en sauver Madame Mina. L'amener dans le château, Dieu m'en préserve. Une besogne abominable doit y être accomplie, que ses yeux ne verront pas. Nous autres hommes, tous sauf Jonathan, nous avons constaté ce qui reste à faire avant que ce lieu puisse être purifié. Remarquez que nous sommes terriblement acculés. Si le comte nous échappe cette fois-ci, et il est fort, intelligent et rusé, il peut décider de s'endormir pour 100 ans. » Et alors, notre très cher, il me prit la main, devrait à son heure venir lui tenir compagnie et deviendrait semblable à ces autres créatures que vous, Jonathan, avez vues. Vous nous avez décrit leurs lèvres avides, vous avez entendu leur rire de ribaude tandis qu'elles saisissaient le sac remuant de vie que le comte leur avait lancé. Vous frissonnez, je comprends cela. Pardonnez-moi la peine que je vous fais. Elle est nécessaire, mon ami. N'est-elle pas cruelle, cette exigence ? Pourtant, si besoin en est, je donnerai ma vie pour y répondre. Si quelqu'un doit se rendre en ce lieu pour y rester, c'est moi qui dois y aller, pour leur tenir compagnie. « Faites comme vous voudrez, » dit Jonathan avec un sanglot qui le secoua tout entier. « Nous sommes dans les mains de Dieu. »